Moteur, moteur, moteur.
Bonjour et bienvenue à tous dans Un soir un film, votre émission cinéma sur Radio MDM. Je m'appelle Fred et avec moi aux manettes Arnaud. Cette émission a pour but de vous suggérer des films à découvrir ou à redécouvrir à travers différentes thématiques que j'explorerai dans chaque émission. Et aujourd'hui, on s'attaque à un genre qui m'est très très cher, le western. Et donc, sans plus tarder, le western, qu'est-ce que c'est ? Le western, en fait, c'est un genre qui est tout aussi vieux que le cinéma. Le premier western remonte à 1903 déjà, réalisé bien entendu aux États-Unis. Le western, c'est vraiment la mise en scène de ce mythe américain qu'est la conquête de l'Ouest, et la mise en scène de cette destinée manifeste, un concept créé en 1845 qui parle de cette nécessité presque divine de conquérir l'Ouest et d'y amener la civilisation en fait. Les blancs anglo-saxons américains, ce qu'on appellera les WASP, je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Ces WASP-là, ils avaient vraiment une nécessité de montrer leur puissance et leur supériorité par rapport au monde entier. Et donc le western, vraiment en tout cas à ses débuts, c'est la mise en scène de ça. C'est, il faut montrer aux gens que c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts, nous les Américains blancs. Et donc sans plus tarder, on va attaquer avec un premier film qui démontre ça avec perfection, et qui reste quand même un très bon film, c'est Le train sifflera trois fois. Alors c'est un western réalisé par Fred Zeidman en 1952, et c'est un super film. Alors bien sûr c'est un film en noir et blanc, vous aurez douté, mais bon, le film n'a pas pris une ride, ça se regarde très facilement. Et c'est un film qui parle en fait de la lâcheté humaine, et de la nécessité pour les Américains d'avoir des hommes valeureux, et prêts à tout pour accomplir leurs devoirs. Le film s'ouvre sur le mariage du shérif Gary Kane, qui est interprété par Gary Cooper, à sa femme, du coup, qui est interprétée, elle, par l'immense Grace Kelly, quand en un seul coup, le guichetier de la gare vient perturber cet heureux événement, en apprenant à Kane que trois bandits, dont le frère de Frank Miller, un bandit local que Kane avait mis en prison 5 ans auparavant, attendent le train de midi. Les notables de la ville implorent Kane de partir, mais ce dernier, contre l'avis général, décide de rester, et se met en quête d'aide auprès des habitants de la ville pour combattre avec lui les Frank Miller et sa bande. Et c'est ça qui rend le film absolument fantastique, c'est qu'on suit Kane vadrouiller en ville dans chaque lieu qui représente les couches de la société américaine. On le voit arriver au saloon, qui représente ce que l'Amérique a de plus bas en fait, les alcooliques, les plus pauvres aussi, et les gens avec les mœurs les plus douteuses. Mais on le voit aussi aller à l'église, représentant cette Amérique pieuse et juste. Et là aussi, lui se mettant à genoux, leur demandant de l'aide. Bien entendu, je ne vous en dis pas plus, puisque je vous laisserai découvrir le film. Mais c'est là vraiment où on voit que c'est un film destiné à ce dont je vous parlais au début, les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, les protestants blancs, en gros, des États-Unis. Puisqu'en fait, Gary Cooper, il incarne cette espèce d'idéal de l'homme américain blanc. Il a toutes les qualités. Il est grand, il est fort, il est beau, il est courageux, il est juste. A contrario de tous les personnages qu'il rencontre, puisque dans chacun de ces lieux, il va rencontrer l'arriviste qui est représenté par son adjoint, l'utopiste qui est représenté par sa femme, Grace Kelly, qui joue une femme très pieuse, qui est contre la violence, qui espère un monde d'ailleurs sans violence, ou même voir le nihiliste, l'ancien shérif de la ville, qui lui dit que ça ne sert à rien de combattre pour le bien. Si on ne fait pas de mal dans ce monde, on se fait manger. Et vraiment, le film est fantastique sur ça. Ça a un discours très très manichéen. Mais en même temps, on voit vraiment la société américaine des années 50 se développer au travers de ce film. Avec bien sûr toutes les valeurs qui y sont attachées. Mais ça le rend pas moins inintéressant, même s'il est en effet très manichéen. Et puis ça reste aussi un film avec une mise en scène qui est absolument magistrale. Notamment la fusillade finale qui est absolument grandiose, même si très très cliché. Le jeu d'acteur est excellent. Vraiment, Gary Cooper, il crève l'écran. Il a une aura. C'est quelque chose de fantastique à voir. Grace Kelly aussi joue très très bien. Et voilà, donc je vous conseille grandement ce film. D'ailleurs, vous pourrez le trouver très facilement sur toutes les plateformes à la location. Même si comme moi, vous ne souhaitez pas engraisser ce cochon capitaliste de Jeff Bezos, je vous invite aussi à le trouver à la médiathèque du Marsan. D'ailleurs, comme tous les films dans lesquels je vais parler en suivant. Nous allons faire une petite pause musicale avec, j'ai choisi le thème du film, The Ballad of High Noon, de Tex Ritter.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. forsake me, oh my darling. Wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. In state's prison, but it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling.
On se retrouve donc pour le second film de cette sélection, et donc j'ai choisi Le Bon, la Brute et le Truand, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, excusez mon italien, dans son titre original. Et donc c'est un film de 1966, réalisé par Sergio Leone, qui est du coup un énorme classique du cinéma, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, et d'ailleurs au passage c'est mon film préféré. C'est un film qui raconte donc la recherche d'un trésor immense par eh bien, trois protagonistes, le bon, la brute et le truand, campé donc par Clint Eastwood qui joue le bon, la brute qui est jouée par Lee Van Cleef, et le truand qui est joué par du coup Eli Wallach. Et donc on voit ces trois protagonistes évoluer durant la guerre de sécession américaine, ces derniers bien sûr n'ayant que faire de cette guerre et ne cherchant uniquement qu'à s'enrichir. On les voit donc parcourir ce pays en guerre avec son lot de rencontres incongrues et bien entendu d'horreurs. Ce film, c'est la conclusion d'une trilogie débutée par Leone en 1964, avec le film Pour une poignée de dollars, suivi ensuite de Pour quelques dollars de plus l'année suivante. Bien entendu, vous n'avez pas besoin d'avoir vu ces deux films pour apprécier Le Bon, la Brute et le Truand, même si d'ailleurs je vous invite grandement à aller les voir. Et en fait, cette trilogie-là a vraiment introduit au monde le genre du western italien, qui a été d'ailleurs surnommé après, par les Américains de façon plutôt péjorative, le western spaghetti. Alors, ce genre était très peu apprécié par les grands studios de l'époque, car ici, Leone nous montre des protagonistes avec des valeurs morales très basses, des gens très cyniques, et prêts à tout pour arriver à leur fin, qui ne sont très souvent que pécuniaires. Ici, Leone en finit donc avec ce concept de destinée manifeste, terminer les gentils cow-boys blancs pleins de vertu et de bonté, qui sont ici pour sauver la veuve et l'orphelin. Là, on voit quelque chose de beaucoup plus réaliste, avec des personnages qui ne sont pas manichéens, qui sont très souvent des salauds. Par exemple, Eastwood, qui joue du coup le bon, ou Blondin, comme le surnomme Tuco, qui est joué par Eli Wallach, le truand, ont tous les deux en fait une combine pour gagner facilement de l'argent. En effet, la tête de Tuco est mise à prix, et donc ce que fait Blondin, c'est de ramener Tuco à la ville la plus proche, empocher la prime, et lorsque Tuco est sur le point de se faire pendre, eh bien, Blondin est là pour couper la corde de la potence, et tous les deux s'enfuient à cheval au galop pour recommencer ça dans la ville suivante. De même pour le personnage qui est campé par Lee Van Cleef, la brute, Setenza dans le film. Et donc ce Setenza, lui, il n'est absolument pas dérangé par le fait de passer du camp sudiste ou nordiste, de torturer des gens, de les tuer, tout ça pour arriver à ses fins, qui est donc de retrouver ce fameux trésor. Et là, ce que je trouve vraiment très intéressant avec le film, c'est que Leone montre vraiment aux Américains la réalité de leur conquête de l'Ouest, une conquête civilisationnelle brutale, sans foi ni loi, loin de leur mythe, et s'incorporant parfaitement à la contre-culture américaine qui émergeait à l'époque, et qui lui a d'ailleurs valu un succès immédiat. Le film n'est pas seulement un chef-d'œuvre grâce à son discours moral sur l'Amérique, il est aussi grâce à ses dialogues, très incisifs et très drôles, tels que...
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Et aussi, mon préféré...
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
La dynamique entre Tuco et Blandin est excellente, les deux ensemble sont hilarants, ils ont une espèce de relation amouraine qui est à mourir de rire à l'écran. Le personnage de Tuco, c'est une sorte de bouffon du roi, il est vraiment super drôle, et en même temps, il a quand même quelque chose de très vicieux et d'un peu effrayant chez lui qui font que ça marche super bien. La mise en scène du film est grandiose, surtout dans les duels. Chaque plan fourmille d'idées très originales, qui fait que ce film, malgré son âge, n'a pas pris une ride, et je pense que dans 100 ans, les gens pourront le regarder avec facilité et plaisir. Et puis surtout, la musique, ici dirigée par le grand maître de la musique italienne Ennio Morricone, que vous connaissez sûrement, je pense, eh bien la musique est absolument fantastique, très moderne, elle détonne vraiment avec les musiques d'accompagnement des westerns qu'il y avait à cette époque-là, et c'est pour toutes ces raisons que je pense que vous devriez bien découvrir ou redécouvrir ce film, qui est absolument grandiose. Et d'ailleurs, vous le trouverez très facilement à la location sur toutes les plateformes de streaming, ou, si vous le souhaitez, à la location gratuite à la médiathèque du Marsan. Nous allons faire une seconde petite pause musicale avec ce magnifique morceau d'Ennio Morricone, L'Estasi d'Oro. On se retrouve donc avec le troisième film de cette sélection, Le Grand Silence, Il Grande Silenzio, dans son titre original en italien. Excusez encore une fois de plus mon italien. Alors, c'est encore un western spaghetti, cette fois-ci réalisé par le second maître du genre, Sergio Corbucci, en 1968. Alors je vais faire une petite aparté avant de parler du film sur Sergio Corbucci lui-même, puisqu'il faut savoir que Corbucci, c'est l'un des réalisateurs préférés de Quentin Tarantino. Ce dernier est tellement fan de ce réalisateur que son film Django Unchained est nommé ainsi en clin d'œil au plus grand succès de Corbucci, qui est du coup Django. Un western ultra-violent sorti en 1966. Et je vais faire aussi une seconde aparté sur Corbucci, puisqu'il faut savoir que ce dernier ne prenait aucune prise de dialogue en son direct. Les acteurs étaient en fait tous de nationalités différentes, et ils ne parlaient pas tous italien. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il faisait redoubler tout en italien en post-production, ce qui donne un aspect parfois un peu étrange à ces westerns, qui pourra sûrement soit vous rebuter, soit vous amuser, j'espère.
Provate a muovervi e vi spacco la testa!
Va tranquillo, non vogliamo ucciderti.
Ma allora, che cosa volete da me?
Il tuo cavallo, sceriffo.
Bon, maintenant nous pouvons passer au grand silence. Ce film se passe donc à la toute fin du 19e siècle. On suit Jean-Louis Trintignant, Cocorico, un as de la gâchette muet qui porte le nom de Silence. Et on le voit venir en aide à une bande de malfrats pourchassés par un groupe de chasseurs de primes, dirigé par Klaus Kinski, un acteur allemand et d'ailleurs acteur favori du réalisateur allemand Werner Herzog. Alors c'est un western qui se veut très subversif, et Corbucci retourne tous les codes du genre. Plutôt qu'être dans le désert du Mexique, on se retrouve dans l'hiver glacial des rocheuses américaines. La bande de malfrats en question, eh bien c'est en fait un groupe de pauvres gens désœuvrés, étant forcés de voler de la nourriture dans la ville locale pour survivre. Et les chasseurs de primes, eh bien en fait ils sont engagés par le banquier local, ce dernier étant le symbole du capitalisme implacable, ne souhaitant qu'écraser les plus faibles par la force. D'ailleurs le film est aussi subversif dans son premier rôle féminin, qui est campé par Vonetta McGee, une actrice afro-américaine, chose qui était très rare à l'époque, le western étant un genre plutôt plébiscité par les blancs et pour les blancs. Comme dans tous les westerns de Corbucci, celui-ci est très cruel et violent. Pas d'humour comme dans ceux de Léon, Corbucci souhaitant montrer le nihilisme de ce monde à travers des hommes sans foi ni loi, n'ayant que pour seule religion l'appât du gain. Alors la mise en scène du film, elle est très classique pour l'époque, mais Corbucci reste tout de même un maître pour filmer les scènes de fusillade et pour y montrer eh bien, toute la violence et la cruauté qui en découle. La musique est, à l'instar de Léon, dirigée par Morricone, ce qui en fait donc une musique absolument incroyable. Vous retrouverez donc ce film sur toutes les plateformes de streaming en ligne, mais aussi à la location gratuite à la médiathèque du Marsan. Nous allons ainsi faire une troisième pause musicale avec le thème du film Il Grande Silenzio d'Ennio Morricone. Thank you. On se retrouve donc pour le quatrième et dernier film de cette sélection. Avant de vous parler du dernier film, eh bien je vais vous faire un petit point sur la tombée en désuétude du genre du western, puisque vous pouvez remarquer que là je n'ai parlé que de films des années 50-60, et en fait il faut savoir qu'après les années 70, le genre du western a vécu une longue traversée du désert. En effet, ces fameux westerns italiens que les Américains prenaient de haut, eh bien ont complètement rendu le genre du western classique has-been, à tel point que même les Américains eux-mêmes essayaient eh bien, de copier le style incisif et brutal des Italiens. On a vu donc une prolification de westerns, y compris américains, tentant de copier eh bien, le western italien, avec eh bien, bien entendu beaucoup moins de succès, ce qui a complètement détruit le genre. Sauf très récemment, où on voit la réapparition eh bien, du genre du western, alors bien entendu dans un genre un peu plus détourné, puisqu'on maintenant on est très loin de ces valeurs manichéennes et morales de l'Amérique des années 50. Je vais donc vous parler d'un western récent, qui est sorti en 2019, qui s'appelle First Cow, réalisé par Kelly Rickard, une réalisatrice que j'aime beaucoup, et qui a plus souvent tendance à faire des films calmes, contemplatifs, très souvent axés sur les relations humaines. Le film se passe donc en Oregon, comme tous les films de Kelly Rickard d'ailleurs, au tout début du 19e siècle. On suit l'aventure et l'amitié naissante entre deux colons, Cookie Figowitz, joué par John Magoro, un migrant polonais, et King Lou, joué par Orion Lee, un migrant chinois. Les deux cherchant à sortir de leur misère en vendant des pâtisseries, Cookie, comme son nom l'indique, étant un cuisinier hors pair. En parallèle de ça, on voit l'arrivée de la première vache en Oregon, achetée par le chef du fort dans lequel Cookie et King Lou eh bien, vendent leur gâteau. Et bien entendu, ils ne vont pas tarder à se servir de cette vache pour assouvir leur dessein entrepreneurial. Alors ce film, il est complètement à rebours du genre. Ici, pas de violence, pas de grands buts moraux ou de grands trésors à la clé. On suit ici deux gars très simples, qui sont aussi des personnages complètement à l'inverse de ceux qu'on vient de voir dans les trois films cités plus tôt. En effet, Cookie est plutôt quelqu'un de tendre et affectueux, haïssant la violence et prenant le temps eh bien, de contempler, d'observer son environnement. D'ailleurs, environnement absolument magnifique. De même pour King Lou, qui est certes un peu plus entreprenant que Cookie, mais n'en reste pas moins un lâche entre guillemets selon les codes du western, on va dire plus classique. Alors c'est un film qui est vraiment très différent des trois films présentés plus tôt, car ici on est vraiment sur un film tout calme, la mise en scène est tout en douceur, Rickard prend le temps de montrer la nature, mais aussi les populations amérindiennes, d'ailleurs très souvent écartées du genre du western, reléguées aux simples ennemis. Alors que là non, on les voit tentant de s'intégrer à ces colons, se mariant à eux, comme par exemple eh bien, l'actrice Lily Gladstone, qui a d'ailleurs été nommée dernièrement aux Oscars pour son rôle dans Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, un autre très très bon western que je vous invite à regarder. Eh bien on voit le personnage de Lily Gladstone être mariée au chef du fort, un blanc du nom de Dufacteur, et on les voit en fait, on voit ces Indiens parlementer avec Dufacteur et ainsi reprendre une place plus centrale et beaucoup plus réaliste dans la colonisation de l'Amérique par les Blancs. Tout comme la mise en scène, le travail sur le son du film est grandiose, non pas par son côté tonitruant, mais plus par cet aspect de douceur. Tout est à pas feutré, on va dire. En tout cas, c'est vraiment un film que je vous invite grandement à regarder. Je vous invite grandement à vous intéresser à la filmographie de Kelly Rickard, qui est une excellente réalisatrice. Et puis ça fait du bien aussi de parler de femmes dans le cinéma qui sont très peu présentes, malheureusement. Et avant de vous laisser avec le dernier morceau de l'émission, A Clearing in the Field de William Tyler, j'aimerais conclure en fait en vous disant que eh bien, ces films-là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du western. Vraiment, je vous invite à trifouiller dans les filmographies de Leon et de Corbucci, mais aussi dans celles d'autres réalisateurs de western tels que John Ford ou Sam Peckinpah, qui sont tous les deux grands réalisateurs américains. Et aussi dans celle de Clint Eastwood, qui durant les années 90 a réalisé quelques-uns des plus grands westerns que connaît le cinéma. Je pourrais vous citer Impitoyable, qui est un film absolument grandiose, ou même José Welles sur la loi, qui est un de mes films préférés aussi. Et sur ce, eh bien, je vous dis au revoir et bonne séance.
Oh putain, moteur!